Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour, bonjour à tous. C'est parti, vous êtes là, nous sommes là. Bref, on est là pour s'enguirlander, on est là pour discuter, on est là pour sourire, on est là pour débattre. C'est l'heure des GG, des Grandes Gueules en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier Truchot.
Bonjour Alain, bonjour les Grandes Gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, Zora Bitant, cadre de la fonction publique, ma chère Zora, bonjour, très heureux de te retrouver.
Bonjour à tous. Moi aussi, je suis toujours très contente de venir.
Comment vas-tu?
Bien.
En forme. En forme pour être avec nous dans les
oui,
GG.
Oui. Non mais au GG, il faut être en forme. Mais je le suis toujours. Déjà rien que d'être là, ça met en forme.
Tu m'étonnes. Pour ceux qui le savent pas, parce qu'elle l'a dit publiquement, on a bataillé contre un cancer.
Je bataille toujours. C'est pas. Ça va. On va dire, c'est sous contrôle.
Tant mieux. En tout cas, tu es avec nous et c'est le principal. Un petit nouveau aujourd'hui dans la bande des GG. Alexandre Mafoudi, bonjour. Militant associatif. On peut dire activiste écologique.
Bonjour Alain, merci de m'inviter, un peu intimidé. Bonjour à tous et aux auditeurs qui nous écoutent. Je me définis comme activiste, pas seulement écologiste ou écologique, mais militant sur des sujets sociaux et environnementaux.
Et aussi un nomade des ZAD, si j'ose dire. Sivens, Roibon, mais aussi à l'étranger, Notre-Dame-des-Landes bien sûr.
Ouais, j'étais aussi à Ambar en Allemagne, à Pyhäjoki en Finlande. C'était une mini ZAD contre un projet Rosatom russe de centrale nucléaire. C'était très intéressant, mais je me suis intéressé au phénomène ZAD et à ses ramifications à l'international.
Et tu viens de la ruralité comme on dit, maintenant de la campagne.
Ouais, je viens d'une campagne très pauvre entre Castillon-la-Bataille et Sainte-Foy-la-Grande. Et je suis fils de paysan, ma mère et ma grand-mère m'ont élevé à la ferme.
Et tu vis dans la région de Bordeaux, ou à Bordeaux même?
Ouais, je suis pas très loin de d'où je suis né, et enfin je suis né à Bordeaux, mais je suis à une heure de Bordeaux au sud-est.
C'est dans le Lot-et-Garonne ça, Sainte-Foy?
Non, Sainte-Foy c'est la Gironde, mais c'est la frontière d'Ordogne, et on n'est pas loin du Lot-et-Garonne. Ouais, moi j'habite à la frontière, je suis aussi en Gironde, mais tout près du Lot-et-Garonne.
En couple, avec des enfants?
Non, pas d'enfants encore, mais en couple oui.
Content de t'avoir avec nous Alexandre, parce que c'est vrai que les sujets écologiques, sociétaux... c'est ce qui nous concerne maintenant au quotidien, c'est devenu un véritable enjeu. Nous sommes avec Mehdi Ghezard aussi aujourd'hui, mon cher Mehdi, bien bonjour.
Bonjour à Mehdi, lui c'est un nomade, mais c'est un nomade de la Coupe du Monde.
Voilà. Alors, et je suis aussi un activiste écologique, j'adore le nomade.
Parce que Mehdi... Il a un aller-retour à Doha quand même.
Il rentre d'un aller-retour à Doha au Qatar, 18h, il a passé là-bas sur les réseaux sociaux, t'as posté la vidéo. Ah bah, dis donc, tu t'es pas emmerdé, t'étais dans les salons VIP et tout.
On découvre sur les images
Olivier. Espagne-Allemagne.
Voilà, déjà que Olivier et moi, on nous traite de fervents supporters du Qatar et du PSG, je pense qu'on va se faire habiller pour la semaine, là, Olivier.
Surtout toi, là. Mais donc, t'as vu quel match?
Espagne-Allemagne. Allemagne, magnifique, exceptionnel. On est très très loin d'eux. En termes d'infrastructure sportive, en termes d'infrastructure de football, en termes d'infrastructure hôtelière, on est très très loin d'eux. La France est à des décennies d'eux, c'est impressionnant comment ils ont rattrapé un retard. C'est un tout petit pays qui vient de se faire quoi, et ils ont fait un truc exceptionnel. C'est féerique.
On est loin d'eux aussi en revenus par habitant. Hein.
Franchement, oui, c'est féerique. Quand tu vas là-bas, c'est féerique. T'as les yeux. Et franchement,
non, moi ça m'impressionne pas du tout.
Le progrès m'impressionne. Et ça, c'est du progrès à 300 km/h.
Et Alexandre, un aller-retour à Doha, ça te fait envie?
J'ai pas envie de critiquer les comportements personnels. Je pense que le problème il est sociétal. On est face à une urgence. On va en parler tout à l'heure sur la question de l'énergie, de la flambée des prix, etc. C'est des stratégies globales. Puisque l'avion est autorisé, je veux pas critiquer ça, mais effectivement il faut juste pas trop se fatiguer en passant plus d'heures dans l'avion qu'en face sur le terrain. Après le Qatar,
c'est des plaisirs de la vie quoi.
Pardon ?
C'est des plaisirs de la vie.
C'est tes plaisirs de la vie.
Ah ouais, mais mes plaisirs ne sont pas les vôtres. Voilà.
J'ai jamais volé en classe affaire, mais j'espère pour toi qu'il y avait de la place dans l'avion, parce que ça doit quand même être long.
Non, ça va. C'est pas. C'est
5h30.
C'est même pas 6h. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que une Coupe du Monde, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je pense ne pas être le seul Français à partir en avion pour pouvoir une Coupe du Monde. et c'est quelque chose à faire. Moi, je l'ai fait parce que j'ai eu l'opportunité de le faire. Et on m'a offert l'opportunité de le faire. Donc je l'ai fait et c'est quelque chose.
Et tu pourrais y retourner voir la France,
pour la France en finale. Oui, je retournerai.
Oui, mais si
la
ça
France
c'est pour finale. Les amateurs de foot.
Voilà, moi c'est ma passion. Voilà. Le foot, ça a toujours été ma passion. Donc voilà. Donc voilà. Et après, on m'a offert des places justement pour ce match-là, qui est quand même un match assez exceptionnel.
Oui, c'était une belle affiche.
C'était deux grandes nations du football qui se rencontraient en poule de Coupe du Monde. Voilà,
mais on parlera des Bleus tout à l'heure dans notre GG7 et match cette fois-ci, savoir s'ils sont des pleutres sans courage. C'est l'accusation portée par Sandrine Rousseau. On a un GG7 et match, oui, pour Zora et Alexandre, non pour Mehdi et Olivier. Mais ça, c'est tout à l'heure à 11h20. On parlait d'enjeu sociétal avec Alexandre Mafoudi, là, notre nouveau venu dans les GG. Ben, l'enjeu sociétal aujourd'hui, on voit bien, c'est là, c'est déjà, il est assez immédiat, c'est passé l'hiver. Essayer de passer l'hiver avec de l'électricité et avec du chauffage. Or, quand on écoute le porte-parole du gouvernement, il y a quand même des risques que ça se passe pas très bien.
RMC, les grandes gueules.
Il existe des gestes simples pour réduire tout risque de surtension et tout risque de coupure. Par exemple, il pourra nous être demandé, dans les horaires qui sont les plus, je dirais, demandeurs d'électricité, c'est-à-dire en général le matin et puis le soir vers 19h, d'éviter de faire tourner le lave-linge ou de décaler un peu l'allumage de la plaque de cuisson. Vous verrez, c'est des mesures extrêmement simples qui sont en réalité assez peu contraignantes et qui ont un impact massif pour éviter qu'on se retrouve dans des situations, même temporaires, qui sont plus délicates.
Acheter effectivement des cagoules. Moi, je n'aimais pas quand j'étais gamin parce que ça grattait la tête. Les cagoules, ça démangeait.
En même temps, c'était efficace.
C'était efficace. Des cagoules, des mitaines, des moufles, peut-être même des bouillottes comme nos voisins allemands.
Oui, en tout cas, c'est quand même difficile de suivre en ce moment la cohérence de ceux qui nous gouvernent parce qu'on veut décarboner la France, mais on a financé le carburant à hauteur de 7 milliards et on rouvre une centrale à charbon. Hein, vous avez vu ça. On se plaint du réchauffement climatique, mais je peux vous dire qu'au gouvernement, on prie pour que l'hiver soit doux. Là aussi, c'est le paradoxe. Le gouvernement vient de mettre en place un chèque bois. Alors pas en bois, mais un chèque pour le bois.
Il est en bois en vérité.
Alors, il peut être en bois parce qu'effectivement on n'a pas l'argent. Mais pourquoi? Alors qu'on voulait, souvenez-vous, interdire les feux de cheminée il y a quelques années parce que c'est vrai que c'est polluant. Et là, en attendant, il fait parfois 11 degrés dans certaines classes de nos enfants parce que les mères n'ont plus de quoi payer le chauffage des écoles. Et là, on a Olivier Véran qui nous dit, bah attendez, ne lancez pas les machines aux heures pleines et ne pas trop utiliser les plaques de cuisson. Merci Monsieur Véran. Vraiment, sincèrement, la vraie question, c'est est-ce qu'on va réussir à se chauffer? Est-ce qu'on n'aura pas non plus à subir des coupures d'électricité? A priori, le gouvernement est quand même assez inquiet parce que le parc nucléaire n'est pas à 100%. Les réacteurs qui devaient redémarrer ne vont pas finalement tous redémarrer comme prévu. Bref, on va prier.
On va prier. Est-ce qu'on va réussir à se chauffer? Est-ce que vous craignez des coupures? 32-7 Zora.
Bah, en fait, la première question, c'est la question sociale. Déjà, est-ce que les gens ont les moyens de mettre le chauffage à plein tube, de faire tourner des sèches-linges, de sécher les cheveux, de repasser, etc. Donc déjà, les gens regardent le porte-monnaie et la facture qui va leur tomber dessus. Donc ça, c'est je veux dire, il n'y a pas besoin de conseils de allumer ci ou allumer ça, ou n'allumez pas.
En fonction de ton portefeuille.
Déjà, en fonction de leur porte-monnaie, les gens vont regarder. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est franchement extrêmement complexe, que ce soit pour ce gouvernement ou pour les gouvernements précédents, puisque le réchauffement climatique change quand même la donne sur pas mal de choses. Maintenant qu'on coupe l'électricité dans des endroits où les gens sont en fragilité, c'est-à-dire les hôpitaux, les personnes âgées, etc., là, ça pose vraiment un problème. Là, ça va poser vraiment un problème. Maintenant que nous, adultes, en pleine forme, on soit chauffé à 17 ou on ait l'électricité éteinte une heure...
Tu vas faire attention, faire attention,
mais
vous
fais déjà attention, je veux dire, t'as pas envie de te payer 500 balles d'électricité par mois. Donc déjà, de fait, ouais, tout le monde fait attention. Il y a que les gens qui ont les moyens, qui peuvent allumer plein pot, qui peuvent prendre 10 douches par jour et qui peuvent mettre les radiateurs, les convecteurs électriques à fond. Le reste de la population, les Français, font attention à comment ils consomment, parce que le pouvoir d'achat, parce que c'est ce que tu gagnes à la fin du mois qui fait la différence. Il y a besoin de zéro conseil. Maintenant, la question de couper l'électricité, côté, franchement, le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Donc, moi, je veux bien, mais on est quand même dans une société où l'État doit tout résoudre. Non, bah, oui, c'est un problème collectif. Voilà, c'est un problème collectif. Donc, si on nous dit...
L'alimentation en électricité, c'est pas nous,
Une heure alors qu'on est au boulot, c'est pas grave, on va pas mourir. Enfin, personne va mourir parce qu'on va couper l'électricité une heure ou deux par jour. Maintenant,
en 2022, c'est pas forcément un progrès de se voir réduit à revenir aux années 70.
Mais parce que les solutions sont, pour l'instant, on est à cheval entre une mutation et des solutions. Donc maintenant, le vrai danger, c'est de le couper là où il y a nécessité d'urgence, des personnes âgées, des hôpitaux, des pédiatries, des centres pédiatriques, etc. C'est tout. Sinon, moi, je suis pas, ça m'inquiète pas.
Alexandre Mafoudi.
Moi, je trouve que c'est la tiers-mondisation. Là, enfin, j'ai voyagé dans beaucoup de pays pauvres et y a des coupures de courant tout le temps. Et là, on voit que la France, on paye des élites un pognon de dingue pour anticiper l'avenir, gérer des questions de sécurité et d'énergie. Et là, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'on est complètement dans les fraises, quoi. Alors, on est ultra dépendant de Poutine. Poutine décide de nous tordre le bras parce qu'il n'est pas content, parce que l'OTAN, machin, truc. Et il sait très bien qu'il va gagner la partie, qu'il a gagné d'avance, parce que il sait que l'Europe est complètement dopée au gaz russe. Qu'est-ce qui se passe? On est en colère avec Poutine. On fait venir MBA, là, Mohamed Ben Salman, le patron, le premier ministre des Émirats Arabes Unis.
Arabie Saoudite. Le premier ministre, il est prince héritier.
Voilà. Et pourquoi on le fait venir? Parce qu'on essaye de négocier une hausse de la production du pétrole dans son pays. Pour pouvoir se décontaminer du gaz russe. Donc
il
n'y
a pas que le gaz russe. Hein. Si les écolos nous avaient pas emmerdés, on aurait des centrales nucléaires qui tourneraient plein badin et on serait tranquille aussi.
Hein. Enfin, les 36 centrales nucléaires qui ne marchent pas, ce n'est pas la faute des écolos. Bah,
hein. C'est le pacte qui a été signé avec Hollande aussi. Hein. Pour les démantèlements.
Les écolos, de faire rouiller les centrales nucléaires.
Pour qu'ils gagnent.
De faire rouiller les centrales nucléaires parce que le problème, c'est de l'oxydation. Je crois que les écolos, ils sont pour rien s'il y a un manque d'entretien.
Si François Hollande a arrêté justement.
Ça n'a rien à voir avec Poutine. Hein.
Voilà. Et si,
le gaz, oui, mais l'électricité,
oui, mais on a un besoin accru d'électricité parce qu'on manque de gaz. On produit. Je ne sais même pas si on ne produit pas de l'électricité avec du gaz en France.
Non, parce que. Oui, je suis d'accord avec toi. Alexandre, quand les Allemands décident de sortir du nucléaire, là, effectivement, ils font le choix du gaz russe. Parce que le renouvelable, ça ne fonctionne pas tout le temps, c'est par intermittent.
Et du charbon.
Le solaire et l'éolien, c'est bien, mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Il faut qu'il fasse beau, il faut qu'il y ait du vent. Et donc, pour compenser, il faut une autre énergie. Si ce n'est pas le nucléaire, c'est le gaz. Il n'y a pas non plus 50 solutions.
Mais moi, j'accepte le débat sur le nucléaire.
Et les Allemands ont dit, on prend du gaz russe. Nous, la chance, c'est qu'on avait du nucléaire français. C'est-à-dire qu'on ne dépendait pas des Russes. Le problème, effectivement, comme le dit Alain, il y a eu, à un moment donné, quand même une doxa. Il fallait sortir du nucléaire, moins s'engager, moins mettre d'argent, fermer Fessenheim, moins entretenir les réacteurs. D'ailleurs, c'est le patron d'EDF qui l'a dit lui-même en disant, en gros, on m'a dit, ça sert à rien d'embaucher des ingénieurs puisqu'on va démanteler peu à peu les réacteurs. Et là, finalement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire des mini-centrales nucléaires, il faut réembaucher des ingénieurs.
On recrute même des ingénieurs étrangers.
Je suis d'accord avec toi. On paye très cher des élites qui sont censées anticiper, planifier,
et
qui ne planifient pas, en tout cas, qui ne planifient pas dans la bonne direction.
Si. Ben, nos élites, regardez comme Olivier Véran, ils anticipent que les mauvaises nouvelles. En fait, moi, ce qui me pose le problème, c'est que Olivier Véran,
Le fait qu'il va falloir baisser la plaque électrique.
Non mais c'est quand même. On prend pour des jambons. Voilà, c'est quand même l'oiseau de mauvaise augure. Quoi, c'est le postier des mauvaises nouvelles. À chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, on met Olivier Véran en première ligne.
Bah, il vient du gouvernement.
Non mais quand il était ministre de la Santé aussi, c'était lui à chaque fois. Tu sais que quand Olivier Véran parlait, prenait la parole, Olivier Véran, t'avais mal au ventre. Quoi, ton ventre il gargouillait. Tu te disais qu'est-ce qu'il va t'annoncer aujourd'hui. Donc à un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons en leur disant il faut baisser le chauffage, il faut éteindre la plaque, il faut pas faire des machines à laver à midi. Je suis désolé, mais ça les gens le font depuis plusieurs années. Les gens utilisent les heures creuses et les heures pleines depuis plusieurs années. Ils ont pas attendu la science infuse d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, pour le faire. Et c'est ça où toute la dramaturgie du truc, c'est que on a des hauts responsables qui te disent des choses basiques, mais qui n'anticipent rien du tout. Et là est le problème, c'est qu'il n'y a eu aucune anticipation. Quand t'es un gouvernement, ou peu importe les gouvernements, quand t'es une élite nationale, tu dois avoir plusieurs cas de figure qui te dit, en cas de problème numéro 1, eh ben, j'ai la solution numéro 2.
Ça fait 40 ans qu'il n'y a pas de visionnaire.
Et il n'y a aucune visibilité. C'est grave, quoi. Imagine que la solution qu'il a, c'est de te dire, baisse la plaque et mets ta machine en heure creuse. C'est
si
ça la solution.
Mais on a un hiver rude.
C'est vraiment
en tant que Français, 7e puissance du monde, tu te dis, je vais avoir des coupures d'électricité. Enfin, c'est personnellement, c'est pas acceptable, quoi.
On en arrivait à la
de 2022 que tu te retrouves à avoir des coupures, du délestage, une heure.
Bah, la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine, personne l'a vu venir non plus. Attends, quand même pas.
On pensait même qu'il n'y aurait jamais de guerre. Voilà. En France. Hein.
Voilà. Moi, je veux bien qu'on accable les gouvernements successifs, les présidents successifs.
En 2014,
ça fait 40 ans que dans ce pays, personne n'est content de ceux qui les dirigent. On passe de l'un à l'autre.
Mais on en a créé la possibilité en étant dépendant de Poutine. Oui. Si on n'avait pas été dépendant de lui, il n'aurait pas fait la guerre.
Oui, mais
il l'a fait parce qu'il savait qu'il nous tenait.
Mais
et évidemment. Du coup, c'est ça qu'il fallait anticiper. C'est ça la géopolitique. Il ne faut pas être dans une situation d'extrême dépendance sur le plan alimentaire, sur le plan
mais
énergétique. Et le Covid nous l'a montré
mais c'est des
avec force.
Qu'il
mais l'histoire des masques. Alexandre.
Oui, mais c'est des décisions qui datent de décennies.
Ces crises, c'est qu'il faut qu'on soit indépendant.
Mais complètement.
Mais on n'a aucune indépendance.
De toute façon, individuellement, dans nos propres vies, ceux qui réussissent, ce sont que ceux qui anticipent, ceux qui sont capables de voir comme se projeter en regardant le pire et le meilleur, etc. C'est presque basique et primaire ce que je veux dire, mais tous les gouvernements successifs auraient dû se projeter.
Comment on devient indépendant
Par exemple, produit nos propres médicaments. Quand même, en ce moment, c'est dingue.
Oui.
On a plus de l'Iprane, pourquoi plus de l'Iprane?
Il n'y a pas que ça.
Comment on devient indépendant sur l'énergie?
Ah mais ça veut dire
l'orientation de la recherche en fait. C'est l'université, c'est la recherche et c'est la planification stratégique, c'est-à-dire le ministère du plan de Monsieur Bayrou qui dit d'ailleurs que la France est capable de beaucoup mieux que ça. Il l'a dit, on va vivre la pire crise qu'on a connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'était surtout le plateau d'Apolline, je crois. Et voilà. Et donc,
on attend toujours son plan quand même, ce Bayrou.
Oui, oui.
J'ai pas dit qu'il faisait le job.
On va l'attendre longtemps.
Mais c'est ça l'idée. C'est que des gens qui nous expliquent la France en 2050, c'est comment. J'ai dire, c'est on vit comment, on chauffe comment, on vit quels sont les revenus des gens, comment on travaille, etc. En fait, c'est ça qui intéresse les gens. Et je pense que c'est ça qui fait peur aux gens. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un réchauffement climatique et des perturbations écologiques, et du coup, ça entraîne des perturbations économiques et des guerres qu'on peut éventuellement anticiper, etc. C'est-à-dire comment tu deviens autonome et indépendant. Et ça, c'est entre guillemets le père ou la mère de famille d'une nation qui dit voilà, j'ai prévu toutes les protections nécessaires pour le peuple au cas où il se peut qu'on n'en ait jamais besoin. Mais en tout cas, c'est être autonome. Les médicaments, c'est vraiment hallucinant. Moi, j'ai regardé la liste, je pensais que c'était que le Doliprane. Mais non, la liste est très longue. Et tout ça, c'est pas... c'est pour ça que l'anti-macronisme, pour moi, c'est n'importe quoi. C'est pas l'anti-macronisme, c'est l'anti-élite, et Alexandre a raison, qui nous gouverne depuis des années et qu'on pas justement fait ce plan qui nous aurait projeté des décennies plus tard pour nous préserver de fléaux qui sont presque qui touche le tiers-monde aujourd'hui. Et c'est ça qui est embêtant et c'est ça qui est un problème. Parce qu'aujourd'hui, la classe politique est complètement déclassée intellectuellement et dans son sens de l'intérêt général. Aujourd'hui, être un homme ou une femme politique, pour la plupart, c'est un métier, c'est une carrière, c'est pas un don pour le pays, c'est pas quelque chose qu'on offre dans le sens de l'intérêt général. On se dit pas je vais travailler et œuvrer pour mon pays, mes enfants, mes petits-enfants et ce pays qu'il faut que je protège comme je peux. Non. En fait, les mecs, ils sont là, ils passent 6 mois, l'autre, c'est comme si tu disais à un boucher, bah, demain t'es dentiste, après-demain t'es coiffeur. Bah, c'est ça la politique aujourd'hui. Et ça, c'est un véritable problème. Il faut des gens compétents, il faut des gens initiés, il faut des gens qui sont sérieux, qui travaillent avec la recherche, avec la science, etc. On n'a plus ça.
Ah bah,
donc forcément, tout le reste, ça dégringole.
Au 32-16, on aura Rachid, qui est chauffeur VTC. Il a des enfants et on verra comment il envisage cet hiver. Comment ça va se passer? Il travaille, il habite du côté des Hauts-de-Seine. Est-ce que vous pensez qu'on va passer l'hiver? Est-ce que vous craignez des coupures et ne pas pouvoir vous chauffer normalement? 32-16 pour en parler dans les GG, dans les Grandes Gueules, avec aujourd'hui Zohar Habitant, Alexandre Mafoudi et Mehdi Guézard.
RMC.
9h30.
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules avec aujourd'hui Mehdi Guézard, chef d'entreprise, Zohar Habitant, cadre de la fonction publique, Alexandre Mafoudi, qui est avec nous, militant, associatif, écologiste, actif, venu de Gironde. Tu connaissais l'émission, tu connaissais les GG.
Oui, oui.
Bien sûr.
C'est un auditeur.
Je vous ai eu au téléphone quelques fois.
Il y a eu quelques passes d'armes au 32-16.
Ah oui, voilà.
Alexandre qui vient débattre avec nous. On est sur la question de l'enjeu énergétique, du chauffage, de l'électricité. Est-ce que vous craignez cet hiver? Craignez-vous des coupures? Comment allez-vous faire? Rachid, bonjour.
Bonjour les Grandes Gueules.
Bonjour Rachid. Chauffeur VTC. Monsieur Rachid, dites-moi tout. Alors, est-ce que vous craignez cet hiver?
Bah, on craint tous cet hiver, j'ai envie de vous dire, comme tout le monde. Hein. On a tous peur de se chauffer à la bougie et de se mettre autour autour de la bougie avec les mains tendues sur la flamme. Mais le plus gros souci pour moi, c'est entre guillemets, même pas entre guillemets, c'est l'hypocrisie du gouvernement qui nous dit de pas allumer la plaque de cuisson à telle heure ou de mettre le chauffage à 19 degrés. Moi, j'ai des enfants, personnellement, quand c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. On va pas attendre 23 heures pour faire à manger pour les gosses. Ouais. Et en plus de ça, quand on nous dit, faites super attention à tout, l'électricité, la télé, débranchez votre micro-ondes, débranchez votre chauffage, enfin débranchez votre télé, et que moi je travaille de nuit, toute la nuit sur Paris, vous voyez les belles rues de Paris, la rue Faubourg Saint-Honoré, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, tout est illuminé toute la nuit pour les lumières de Noël, pour les touristes. Au bout d'un moment, les gars, il va falloir choisir. Soit on fait tout ce qu'il faut pour les touristes, et nous aussi c'est open bar, ou soit on ferme les vannes pour tout le monde.
Mais il n'y a pas que ça, Rachid.
Il n'y a pas que ça.
Les économies, c'est partout. C'est dans les bâtiments institutionnels. C'est partout. Il n'y a pas que les rues, mais c'est vrai qu'on nous demande toujours à nous de faire les efforts.
Enfin, il fait 11 degrés dans certaines classes. Pardon, moi, ça me choque. Je suis désolé.
Oui, bien sûr.
Les enfants n'ont pas à subir l'incompétence des adultes.
Allez-y, Rachid.
Exactement. Bon, mes enfants, ils sont à l'école. Quand ils rentrent à la maison, ils sont contents parce qu'il fait chaud. Alors qu'à l'école, ils ont le petit polaire c'est pas confortable.
Rachid, juste une question, excusez-moi. On va se dire les choses clairement. Est-ce que vous avez eu besoin d'avoir l'annonce d'Olivier Véran pour faire des machines à laver le soir ou pour utiliser le gaz ou l'électricité un peu plus avec un peu plus
de modération.
Honnêtement, est-ce que vous avez eu besoin de ce petit rappel à l'ordre, de cette paternisation politique?
Mais bien sûr que non, bien sûr.
Merci Rachid.
C'est mon portefeuille.
Merci à vous.
C'est pas le gouvernement qui va me dire attention, il faut que tu baisses le chauffage, sinon tu vas payer cher. Et je prends l'enfant, je fais attention à mes sous.
Les gens n'ont pas besoin d'avoir
papa Véran pour qu'ils me disent oui.
Voilà, c'est ça. Fais ça, ne fais pas ça, allume ça, éteins ça, va dans la chambre.
Attendez Rachid, ça vous met pas en colère quand même ça? Enfin, je veux dire, dans la France de 2022, de devoir se dire, aujourd'hui, on doit faire des économies, il va falloir que je baisse le chauffage, ça va me coûter une blinde, ça vous fout pas en rogne, ça, quand même?
Mais bien sûr, ça me fout en rogne, surtout qu'on habite en France. On habite en France, c'est un beau pays, c'est un pays développé. Voilà, moi j'ai voyagé dans des pays où c'était pas du tout comme ça, et les gens étaient en galère, et nous, on est dans un beau pays où tout va bien.
Je partage votre inquiétude, moi, Rachid.
Alexandre.
Je pense que, effectivement, c'est un état d'insécurité dans lequel on se trouve, parce qu'encore une fois, je vois comment ça s'est passé pour le Covid, ça s'est passé pour les Gilets jaunes. Enfin, il y a un manque de planification et une incapacité à réagir quand une situation se présente. Donc, on est là, le moindre petit chaos, on est en PLS. Et c'est vrai
le pire, c'est pas pour nous. Nous, on est des grands, on est des adultes. Le pire, c'est pour les enfants. C'est ça qui est dégueulasse. C'est pour eux qu'on bosse.
Alors, faut pas être dupe aussi de la tactique politique. C'est-à-dire que là, ils en rajoutent. Et si ça se passe bien en janvier, pourront dire, vous voyez, on a bien fait d'en rajouter, parce que grâce à ça, on a passé l'hiver tranquille. Vous voyez.
Et remercions les Français pour leur bonne attitude.
C'est aussi une façon de se mettre un parapluie en disant, on pourra pas nous reprocher de pas avoir alerté les Français.
Olivier, on peut pas faire de la politique en faisant que de la stratégie. Je pense qu'à un moment donné, les gens, ils en ont un peu ras-le-bol. Je veux dire, si on est transparent, si on anticipe et si les gens ont une vision de la façon dont ils vivent aujourd'hui et la façon dont ils vont vivre demain, avec des gens sérieux qui expliquent les choses de manière sérieuse, sans être dans le calcul de com en disant si je dis ça aujourd'hui, faut que ça ait des répercussions sur demain, comment vont me revenir les choses comme tu l'expliques. Forcément, ça donne de la colère, ça donne du rejet de la classe politique, etc. On demande quoi à la classe politique? On demande de nous sécuriser. Il a raison, Alexandre, c'est l'insécurité. C'est-à-dire que l'insécurité, ça devient complètement irrationnel. C'est-à-dire que les gens, on leur dit, il va falloir éteindre l'électricité, en tout cas l'utiliser avec parcimonie. Ça met les gens en insécurité. Après, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. C'est comme ça que naissent les complotistes, les fake news, le rejet de la démocratie, etc. Et ça, c'est vraiment dangereux, parce qu'on sait très bien que quand il y a un gros bataillon de gens qui, sous couvert d'insécurité et du coup de colère et du coup de rejet de complotistes, etc., on sait derrière qui est capable de reprendre le pouvoir pour raconter encore plus de bobards et ramasser la mise. C'est là où c'est dangereux, c'est là où la responsabilité de la transparence, de l'anticipation et de la vérité et de sécuriser les gens est importante, parce que de tout ça peut naître le chaos, mais pas là où on l'attend.
Mais Zora, excuse-moi, je suis d'accord avec toi sur qu'il y ait une sorte de frange de personnes qui va rentrer justement dans ce monde de complotistes pour essayer de faire voilà. Ça, il y a pas de souci. Mais moi, explique-moi une chose. Comment ça se fait que l'année dernière le mégawattheure était à peu près à hauteur de 60 €, je crois, ou 50 € et qu'il est à peu près à 850 € cette année.
Non, mais là.
Excuse-moi. Non, et mais... qu'on paye, nous, des décisions européennes et que la France paye, parce que nous, le coût mais de production évidemment. D'un mégawattheure en France, c'est à peu près entre.
Ouais, mais c'est ça aussi le sentiment
d'insécurité. Et on paye. Excuse-moi. Non, mais à un moment, tu me dis de pas être complotiste. Je ne le suis pas et tu le sais très bien. Je suis un républicain, tu le sais très bien. Mais à un moment, tu dis à quelqu'un de. Un Français lambda, que sa facture va quadrupler, voire quintupler, et parce que des décisions ont été mal prises par leur gouvernement pour lequel ils ont voté, et qu'on paye une mauvaise gestion, et que, en fait, c'est pas le gouvernement qui va payer cette mauvaise gestion, c'est le Français lui-même. Excuse-moi, mais quand tu passes de août 2021 à août 2022, de 50 € le mégawattheure à 850 € le mégawattheure, quand ta facture augmente pour les professionnels entre 300 et 400
850 € le mégawattheure.
Ouais, c'est ça. Oui, 850 €, c'est ça.
Il y en a, ils ont fait fois 15, fois 30.
Et quand
50,
tu, et quand tu parles, il y a des entreprises.
Pas les particuliers,
moi je parle des entreprises.
Mais professionnels.
Oui, bien sûr, bouclier tarifaire, c'est pour ça qu'ils étaient dans la rue. Excuse-moi, mais à un moment, tu te dis. Il est revendu à d'autres sociétés d'énergie qui le revendent et qui refont des profits dessus pour le revendre aux Français.
Oui, mais le complotisme, c'est quoi? C'est des gens qui profitent.
Non, mais excuse-moi, à un moment, tu te dis, merde.
Merci Arachide.
On mérite vraiment ça? On mérite.
Merci Arachide d'avoir été avec nous. Alexandre, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, mais je voulais dire, oui, c'est ça l'insécurité, c'est-à-dire qu'on a des choses aussi importantes que notre approvisionnement en énergie, dont on nous a rendu dépendants aussi, on l'a, c'est déjà trop cher, et on se rend compte que même ça, c'est pas un acquis, alors qu'effectivement, la France est une grande puissance, même sur le plan de l'énergie.
Ou alors, il faut nous expliquer qu'effectivement, c'est un peu la fin de l'abondance, ce qu'a voulu dire Macron à la rentrée, là, en septembre. Qu'on a effectivement.
Ah, ils n'ont jamais connu l'abondance.
Une énergie finalement pas très très chère. On ne se posait pas la question. Il y avait du carburant dans les pompes. Il y avait l'électricité à la maison. Et peut-être que cette période-là est terminée. Et qu'on
il y avait des étés où on n'avait pas 45 degrés tout l'été. Donc on a peur. Parce que tout est incertain. Le climat est incertain. Et l'approvisionnement en médicaments est incertain. L'approvisionnement alimentaire lui-même est incertain. Et on voit que le gouvernement, il est aux fraises.
Mais moi, je vous le dis, il y a des boulangers qui vont faire.
Oui, 2 euros la baguette.
2023, non mais il faut s'en rendre compte. 2023, il y a des boulangeries, énormément de boulangeries qui vont fermer parce qu'ils ne pourront plus vendre le pain au prix actuel.
Il y a l'UMI d'ailleurs
Et ils vont le fermer.
Alexandre,
et tout le monde va acheter du pain, et je vous le dis dès maintenant. Hein,
industriel.
Tout le monde va acheter du pain parce que ça sera le moins cher et qu'on va plus privilégier la qualité.
Le pain mou, tu tords.
Voilà, mais le pain, moi j'appelle ça le pain chewing-gum qu'on va se taper dans les Carrefour, dans les Leclerc et tout ça.
Les gens vont faire leur pain.
Mais t'as quoi comme type de chauffage chez toi, région bordelaise?
Moi, je me chauffe au bois là. Je suis région bordelaise, mais je suis quand même bien à la Cambrousse. Je me chauffe au bois et ça a bien augmenté aussi. C'est impressionnant. Et ma mère se chauffe au granule.
Tu as un chèque bois, non pas
le granule. C'est
tu fais quoi? Tu fais rentrer des stères, quoi, c'est ça?
Oui, j'achète du bois, je le stocke et je le débite. Et
ça a fortement augmenté et c'est pas facile de se procurer du bois en ce moment.
Voilà, le prix a considérablement augmenté. Là, on est à 80 € la stère pour avoir du bois sec et bien coupé, ce qui est cher. Il faut 15 stères si on a une maison qui n'est pas très, très bien isolée. Et ma mère se chauffait au granule. Eh ben, j'ai dû lui installer un, elle a 80 ans, et c'est dur pour elle de porter des bûches, et donc vraiment, je suis fâché.
Quand même, là.
Mais, donc, t'as pris des granules?
Mais il y a 5 ans, on disait comme quoi, il fallait arrêter tout ce qui était
chauffage au bois,
parce que c'était pas écologique.
Oui, ça émet de la dioxyde, mais c'est un peu vrai dans les villes, mais à la campagne, c'est pas un problème, mais ville, effectivement, avec les gaz d'échappement, il peut y avoir des fumées qui peuvent être toxiques en accumulation.
On va aller du côté de l'Allier, Montluçon, retrouver Patrice. Bonjour, Patrice.
Bonjour.
Mon cher Patrice, est-ce que vous craignez cet hiver de ne pas pouvoir vous chauffer? Est-ce que vous craignez des coupures?
Oh, mais de toute façon, cet hiver, je ne me chauffe pas. Parce que quand on passe de 80 € par mois à 130 € par mois en facture d'électricité, en prélèvement électrique et gaz, on ne chauffera pas. Et puis, je vais me léger, je vais récupérer des couvertures. Et puis, pour l'électricité, j'éteindrai toutes mes lumières toutes les journées, tout au long de la journée. Et puis la télé, je la regarderai moins. L'ordinateur, je l'allumerai moins. La box, je l'éteindrai. J'ai pas le choix parce qu'avec
continuez quand même à écouter les grandes gueules.
Ah oui, non, mais chargez le téléphone avant. Voilà, comme ça, je pourrais écouter.
Non, mais
vous êtes passé de 80 à 130 €.
Ouais.
Juste pour l'électricité?
Électricité et gaz.
Vous payez 130 euros par mois.
Bah ouais, ils ont monté.
D'accord, et qu'est-ce que vous avez comme logement?
Un T3.
Vous êtes en appartement?
Ouais, mais alors isolé, isolé comme une feuille dehors, quoi. C'est d'ailleurs pas isolé du tout. Voilà.
Oui, parce que dès qu'on isole, ça va mieux. Hein.
Passoire énergétique.
Le propriétaire surtout ne va pas faire les travaux pour isoler le toit, parce que c'est le toit qui est le plus...
Mais vous avez quoi comme revenu, Fabrice, pardon?
Patrice. RSA.
Ouais. RSA. Ah, oui.
Et les chèques énergie, ça fait 2 ans que je ne les ai pas suite à mon déménagement et à une bourde des impôts qui fait que je ne peux pas avoir mes chèques énergie.
Ah. Je suis pas au garage. Dans mon établissement, dans le garage, on est passé de 1900 balles à 5000 balles. 1900 euros à 5000 euros.
Électricité, chauffage.
En trois mois.
Ouais, il y a des mairies qui parlent d'une multiplication par 20.
C'est un garage,
Qui l'aurait été.
C'est pas une boulangerie, il n'y a pas des fours, il n'y a pas de.
C'est de l'arnaque, là.
Non, mais
c'est un braquage.
1900 à 5000 euros.
Non, mais il y a un problème, là.
Pour 3 mois. C'est pas une blague. 3 mois. EDF, 3 mois, ils viennent, ils prélèvent.
Ouais.
Et oui, je dis ça, je dis rien.
Chez EDF.
Et pourtant, j'ai pas plus de personnel ou plus de ponts ou plus de.
Que ce soit pour les entreprises ou les particuliers, c'est quand même hallucinant de voir.
Ah, les entreprises, il y en a beaucoup qui
les entreprises de voir des prix multipliés par 10.
Ce que je trouve inacceptable, c'est que les élus ont l'air de dire c'est pas de notre faute, c'est les circonstances, quoi. Non. On n'a pas fait exprès.
Ils le font tous.
Il y a le Covid, il y a les Gilets jaunes, il y a la guerre en Ukraine. Mais en fait, c'est pour ça qu'on les paye. C'est pour anticiper ces trucs-là. C'est pour planifier. Ah,
le manque d'électricité, c'est la responsabilité de la France. Moi, je le redis encore une fois, ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine.
Strictement
c'est
rien à voir.
Un problème. Il faut se souvenir de ce que disait Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, avant la guerre en Ukraine, l'hiver qui a eu lieu avant la guerre en Ukraine. Elle avait dit, avant l'hiver, il y aura des problèmes de tension, il y aura attention, blackout. Déjà, à l'époque, on avait un problème d'approvisionnement en électricité. Donc, on était avant la guerre en Ukraine. C'est
par
un problème.
On n'a pas suffisamment
développé le renouvelable.
Tout simplement.
On est en retard sur les promesses qu'on avait faites sur le renouvelable. Et en plus, on a un nucléaire déclinant qui est défaillant.
Et pas entretenu.
Donc, ça, ce sont des problèmes franco-français, il faut le rappeler.
Et on a voulu suivre l'Allemagne.
Merci.
Et on a voulu suivre l'Allemagne.
Qui s'est mis dans une mouise
parce qu'il est menotté. Parce qu'on tout le monde dit oui, Madame Merkel, ça a été la meilleure chancelière allemande depuis
son image est un peu écornée.
Voilà. Et ben son image peut te dire que maintenant les Allemands, elle est restée au pouvoir, je pense, un peu plus de 20 ans si je me trompe. Pas. Maintenant, je peux te dire que les Allemands, ils font la gueule, parce que quand ils se prennent une dépendance énergétique russe. Avec les prix qui ont augmenté aussi en Allemagne, Madame Merkel, il n'y a pas beaucoup de monde qui la regrette actuellement en Allemagne.
Merci à Patrice d'avoir témoigné, d'avoir été avec nous. Vague de froid, est-ce que vous allez réussir à vous chauffer? C'est votre sentiment qu'on vous demandait ce matin sur les réseaux sociaux. Oui, quand même, à 68%, mais on a un tiers d'entre vous qui font quand même part de leur inquiétude.
Ce qui n'est pas anodin.
Ce qui est énorme en France.
Dans un instant, avec Zora Habitant, Alexandre Mafoudi, avec Mehdi Guézard, on s'en fout pas. Déclaration de patrimoine, l'ex-ministre Caroline Cayeux rattrapée par la patrouille, un chauffeur de car scolaire licencié parce qu'il ne respectait pas tous les arrêts. Parfois, il s'arrêtait pour pouvoir déposer une petite fille le plus près de chez elle. Et donc, comme il ne suivait pas les arrêts, on l'a licencié. On s'en fout ou on s'en fout pas? On vous raconte ça dans un instant avec Caroline.
On s'en fout, je m'en fous en fait.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, tous les jours, en direct avec vous, bien sûr. Aujourd'hui, dans les GG, nous sommes avec Zora Habitant, cadre de la fonction publique. Un nouveau venu dans les GG, qu'on avait remarqué au 32-16. Il est avec nous maintenant en studio, Alexandre Mafoudi, militant associatif écologiste. Et qui vit du côté de Bordeaux. Tu bosses comment?
Là, je suis en reconversion, donc j'ai travaillé pas mal dans l'associatif. Et là, je fais un BPREA, un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole. On dit plus exploitant agricole, on dit entreprise agricole parce qu'on veut plus dire qu'on exploite la terre.
D'accord.
On a plus le droit d'exploiter la terre.
Et pour faire quoi? Pour devenir quoi, en fait? Pour exploiter un petit peu de terre et revendre ensuite tes produits, c'est ça?
Du cosmétique, je veux faire du baume de consoude, ça a plein d'applications sur les blessures, sur les coupures, sur les petits chocs.
D'accord. Et Mehdi Guézard est avec nous aujourd'hui, chef d'entreprise. On y va avec Anaïs Sens.
Moi, j'exploite la terre que je...
Bah, lui, garagiste, restaurateur.
J'exploite les moteurs. Voilà,
il exploite le réchauffement climatique.
Voilà, j'exploite.
Il l'entretient.
Je vais au Qatar en avion. Je suis un grand salaud. Voilà, excusez-moi. Je revendique...
Tu l'assumes, au tout du moins.
Ah oui, salaud attitude, bonjour. Voilà, c'est moi.
Et on y va pour le « on s'en fout ».
Désolé,
on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Anaïs Sainz, notre productrice, bonjour.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Caroline Cailleux, rattrapée par la patrouille. La haute autorité de la transparence de la vie publique suspecte la désormais ex-ministre d'une évaluation mensongère de son patrimoine et d'une fraude fiscale. Est-ce qu'on s'en fout ou on s'en fout pas? Mehdi?
On s'en fout pas.
Zora?
Je m'en fous.
Alexandre?
Je m'en fous pas.
Alexandre?
Eh ben, c'est des gens qui sont payés avec l'argent des Français, l'argent du contribuable, et doivent bien se tenir et doivent être exemplaires dans l'usage qu'ils font de cet argent.
Mehdi?
Alors, je m'en fous pas parce que c'est incroyable qu'un poste de haute responsabilité comme cela, il soit pas blanc-bleu, alors que nos petits patrons d'entreprise, dès qu'on fait la moindre incartade, on s'en prend plein la gueule.
C'est voilà. Le millionième fait politique depuis 40 ans.
Non, mais c'est voilà. Zora a tout à fait raison. C'est qu'en fait, t'imagines qu'il y a même en plus. Non, mais ce qui est quand même assez flippant et assez déroutant, c'est que avant qu'ils soient nommés, il y a une commission qui est faite pour vérifier leur patrimoine, la haute autorité, pour vérifier leur patrimoine et pour vérifier la véracité de leurs propos. Donc, ils sont nommés, ils sont d'un, et après, finalement, elle n'est pas blanc-bleu.
Elle avait sous-évalué, il faut expliquer ce qui s'est passé. Elle a sous-évalué le patrimoine immobilier dont elle dispose.
Qu'elle a divisé par deux quand même.
Issu d'un héritage.
Ça, c'est une division.
Issu d'un héritage, c'est l'héritage, pas l'argent public pour
c'est l'héritage, oui, c'est pas l'argent public, c'est pour ça que je vais rectifier. C'est l'héritage du laboratoire Fournier qui appartient à sa famille. Et donc, effectivement, elle a un bien immobilier de 500 mètres carrés dans le 16e arrondissement à Paris. Ah. Elle a de propriétés
dans l'Ille-et-Vilaine.
Et tout ça a été sous-évalué puisque vous savez, désormais, depuis l'affaire Cahuzac, on a créé la haute autorité et on doit déclarer son patrimoine, sauf qu'il faut déclarer un montant qui correspond à la réalité. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc, elle risque de se prendre un redressement fiscal.
Copier.
Et puis, en plus, souvenez-vous, Caroline Cailleux, c'est celle qui avait tenu des propos homophobes.
Oui.
Donc, un peu, c'est strike quand même pour Cailleux. Hein.
C'est...
Oui, mais il ne se passera rien. Comme d'hab.
Bah si, là, elle va avoir
un redressement fiscal.
Elle est plus ministre.
Oui.
Et elle a un redressement fiscal.
Et après, ils sont recasés dans des grands groupes comme président. comme non, et c'est pour ça que c'est pas grave.
Non, je pense pas que Madame Cailleux
sera. Non, mais peu importe.
Elle sera à la Cour des comptes peut-être.
Non, mais peu importe, c'est pas grave quoi. C'est
les GG pour sauver la planète. Les GG pour sauver la planète. Pourquoi ne pas imposer des quotas pour les voyages en avion? C'est Jean-Marc Jancovici, président du think tank The Shift Project, qui propose ainsi. Où on n'en aurait tous qu'un nombre limité de vols dans son existence. On l'écoute d'abord, il était au micro de Léa Salamé.
Riche ou pauvre, vous auriez droit dans toute votre vie à 3 ou 4 vols par avion dans votre vie, dont 2 dans la jeunesse.
Moi, ce que je dis, c'est que je trouve que le système où on gère par les quantités est un système qui est plus égalitaire que le système où on gère par les prix.
Donc 4 fois dans une vie entière.
Non, mais j'ai dit 4, ça peut être 2, ça peut être 5, j'en sais rien, j'ai pas fait les calculs. Mais l'idée, c'est encore une fois, c'est gérer par les quantités plutôt que gérer par les prix.
Est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout pas, les GG. Alexandre?
Ah non, je m'en fous pas.
Zora?
Ah, je m'en fous pas, mais c'est drôle.
Mehdi?
Je m'en fous. Je suis.
Bah, tu t'en fous, tu en parles
non,
pas.
Non, je m'en fous pas, j'ai dit.
Ah bon,
t'es malade ou quoi?
Alexandre?
Quand on prend des inepties comme ça, je suis.
Ça dit quand même de manière théâtrale qu'on est dans une situation catastrophique où il faut se rendre compte qu'il va falloir changer notre rapport à l'énergie, à la nourriture. Après, est-ce qu'il y aura des quotas? Je sais pas si c'est.
Et plutôt pour?
La symbolique m'intéresse. Je pense pas que ce soit le chemin. Je trouve ça punitif. Je trouve que c'est pas pédagogique et je trouve que c'est pas juste. Donc, et puis en plus, je crois qu'on peut développer des avions hydrogène qui volent avec un hydrogène vert.
C'est plus intéressant.
Voilà. Donc, je crois tout à fait qu'on pourrait, si on en faisait l'effort, développer une aéronautique qui soit non polluante.
Ça fait longtemps que tu as pas pris l'avion?
Quelques années, mais pas très longtemps. Non, je m'interdis pas de prendre l'avion. J'évite de faire des séjours trop courts, mais je m'interdis pas de prendre l'avion.
C'est un retour Paris-Doha à la Mehdi Guézard, par exemple.
Pour 24 heures. Zora...
Tu aurais déjà épuisé ton quota, toi, parce que si c'est 4 dans l'année, c'est fini.
Mais en fait, ce que je trouve quand même assez.
Dont 2 dans la jeunesse. Hein.
Non, mais ce que.
4
Non, c'est pas dans l'année, c'est dans la vie.
Oui, oui, dans la vie. Non, mais je dis il aurait déjà épuisé 4, mais largement.
Non, mais ce que je trouve assez pathétique, c'est que des personnes comme ça se prennent au sérieux quand ils proposent des choses comme ça.
Oui, c'est un peu ça.
En fait, tu sais, c'est.
On pourrait dire ça en blaguant, quoi.
Voilà, si c'est une boutade, à la rigueur, on peut en rigoler, on peut, voilà, ouais, c'était drôle. Mais en fait, le type est sérieux dans ce qu'il pense. Et moi, c'est ça qui me fait flipper.
Jean Covici, je pense qu'il est de plus en plus sérieux, ça.
Voilà, il est de plus en plus flippant, quoi. Tu vas m'interdire à moi ou tu vas me donner un barème de nombre de fois que j'ai le droit de voyager, quoi.
USB-C. Greta Thunberg avait fait le Fluxcam, ou je sais pas comment on dit, là, ouais, la honte de fond de l'avion. Et USBC, la banque suisse, avait prédit 10% de baisse du trafic aérien dans les pays germanophones voisins, c'est-à-dire Danemark, Belgique, Hollande, Suède, Norvège, et qui s'est réellement réalisé. Donc, c'est impressionnant. Il faut faire attention. Ces gens-là ont un pouvoir de prédiction qui va influencer l'avenir.
Mais je pense qu'il y a une prise de conscience. Moi, je connais des jeunes qui disent très clairement qu'ils ne prendront plus l'avion, ou beaucoup moins, ou qui vont privilégier le train, quitte à mettre 15 heures pour faire le même trajet. Je pense quand même que c'est une question de génération. Après, quand même, l'avion, c'est le voyage, et le voyage, c'est quand même, ça ouvre l'esprit. Alors, si c'est le voyage pour aller se mettre au bord d'une piscine et ne rien voir d'un pays, effectivement, on peut rester dans le sud de la France. Si c'est pour voyager, découvrir d'autres civilisations, d'autres cultures, voir un peu aussi comment les gens vivent, et souvent ils vivent moins bien que nous, c'est pas mal quand même. Ça permettrait peut-être à certains de s'ouvrir l'esprit.
On enchaîne.
Et puis cette info, les GG du canard enchaîné. En septembre dernier, un homme est parvenu à entrer à l'Élysée sans être repéré et a carrément s'approcher du bureau d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Mehdi ?
Je m'en fous pas.
Zora ? Alexandre ?
Non, pareil, je m'en fous pas, non.
Zora ?
Bah, c'est quand même, ça interroge sur les conditions de sécurité, quoi. C'est un moment où le président a souvent dit qu'il était menacé. À l'époque des Gilets jaunes, il y avait quand même eu des tentatives, etc. Il faudrait savoir un peu dans quelles circonstances
en fait,
et comment.
Il y a 150 gardes républicains à l'Élysée. Ouais,
hein, il a réussi, cet homme-là a réussi à déjouer l'attention des policiers qui patrouillaient sur le trottoir. En fait, il a profité de la relève de la garde républicaine pour s'infiltrer.
Il y avait Tassin, Chaudard et Pitivier qui était en train de faire la relève. Et puis il passe bonjour. Mais oui, chef. Et puis
c'est
il est passé. Tranquille. Le strike.
Non, mais c'est quand
le coup
même,
parfait.
C'est dingue.
Là, c'est quand même pas sérieux.
Enfin, ouais. Bah non.
Ouais, mais encore une fois, je ne veux pas être gémissant, mais encore une fois, on n'est pas à la hauteur, quoi. Effectivement, le président, c'est un intérêt stratégique français. Sa sécurité, elle nous concerne tous. Il a le doigt sur le bouton nucléaire, on lui donne notre confiance, il faut qu'il soit protégé convenablement.
Et il était en plein conseil de défense, Macron.
Oh là,
oui, c'est son bureau.
C'est ça qui est dingue.
C'est arrivé à proximité, je crois, du salon d'honneur dans l'Élysée. Je vous ai dit, monsieur, vous avez rendez-vous, vous venez voir quelqu'un, qu'est-ce que vous faites là, quoi, en fait.
Mais comme cet homme qui s'était introduit à Birmingham il y a plusieurs années, jusqu'à la chambre à coucher de la reine Elisabeth. Il l'avait réveillée.
Et là, il est reparti en courant ensuite quand elle s'est réveillée. Dans un instant, le blocage des routes par les écolos.
Attends.
Buckingham Palace.
Ah oui.
Tiens, vas-y, tu peux. Quoi ? Vas-y.
Une heure après le sonore.
Non ! On veut pas ! Allez, dans un instant, avec Zora Bitton, avec Mehdi Guézard et avec Alexandre Mafoudi, le blocage des routes par les écologistes. Vous avez vu ces actions,
Alexandre,
qui se multiplient. Il va y avoir un problème. On a vu certains automobilistes qui sont allés les dégager manu militari. On a failli en venir aux mains. Ces actions radicales, est-ce qu'on doit durcir les sanctions? 32-16 pour en parler avec les GG. Et on vous attend, bien sûr, en direct avec les Grandes Gueules.